Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme tous les mercredis, on se retrouve pour vous accompagner dans ce monde patrimonial. Tous nos meilleurs experts sont sur le pont pour vous guider, vous donner des idées d'investissement, des idées de stratégie pour mieux gérer vos placements. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on commence avec de la stratégie patrimoniale grâce à Élodie Roux. Bonjour Élodie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous sur Cœur de patrimoine pour Altos Patrimoine. Et on va parler donc d'une stratégie, l'apport-cession. Il faut d'abord que vous nous rappeliez un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'apport-cession.
Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ce mécanisme qui est quand même assez complexe, qui est l'apport-cession. C'est une stratégie patrimoniale qui consiste pour un chef d'entreprise à réaliser une certaine opération pour optimiser la cession de sa société. L'opération consiste en un apport des titres de sa société à une holding à l'impôt sur les sociétés avant de la vendre. L'objectif de cette opération, c'est de bénéficier d'un report d'imposition. Donc on va calculer le montant de l'impôt qu'il aurait dû payer en cas de cession, on va le figer aux conditions fiscales actuelles et le décaler à un moment ultérieur. L'intérêt pour le chef d'entreprise, c'est que s'il ne fait pas cette opération, il va vendre en direct, la fiscalité sur la plus-value va être due. Aujourd'hui, quand on réalise une plus-value de cession, la fiscalité qui s'applique de base, c'est la flat tax au taux de 30%, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2%.
Bien sûr.
Et en plus, en fonction du montant, une éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui peut atteindre 4%. Donc on arrive à un taux global qui peut atteindre 34%.
Ouais, c'est pas négligeable.
C'est pas négligeable. Et si on prend, par exemple, une cession d'un million d'euros avec une plus-value d'un million d'euros, ben, si on applique 34% d'imposition, il ne reste dans la poche du chef d'entreprise que 660 000 euros pour faire d'autres investissements. Donc l'apport-cession, en fait, ça lui permet d'apporter ses titres et de pouvoir réinvestir, en revanche, au sein de sa holding, 100% de son fruit de cession et de payer l'imposition plus tard.
Bon, en clair, c'est quand même un cadeau que nous fait Bercy, que nous fait le fisc. Et j'imagine que, comme tout cadeau, entre guillemets, fiscal, Élodie, il y a des conditions. On peut pas juste claquer des doigts en disant « je veux être exonéré » et faire un grand sourire.
Exactement. Comme tout avantage fiscal, il y a des conditions, il y a des contraintes particulières pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Et donc, ces contraintes, elles sont définies par l'article 150 obéter du Code général des impôts. D'ailleurs, quand on parle d'apport-cession, on me fait parfois un raccourci en parlant d'article 150 obéter.
Ouais, c'est une terminologie qu'il faut avoir en tête quand on navigue un petit peu dans le monde patrimonial. 150 obéter.
Exactement. Et donc, cet article 150 obéter nous dit que quand on fait un apport-cession, donc on apporte les titres à une holding, puis on cède, si on cède dans les 3 ans suivant cet apport, pour pouvoir maintenir ce report d'imposition qu'on est venu chercher en faisant cette opération, on va devoir réinvestir 60% du fruit de cession dans des actifs éligibles. Le but de ce dispositif fiscal, c'est de faire investir dans l'économie réelle. Et donc, les actifs éligibles, ça peut être monter une nouvelle société. Donc ça, c'est super intéressant pour un chef d'entreprise qui viendrait céder. Il disposera de tous ses capitaux pour créer sa nouvelle société. Investir au capital de sociétés d'amis ou de start-up qu'on aura sélectionnées ou de sociétés qu'on connaît. Ou dans des fonds d'investissement. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Il y a des fonds d'investissement qui sont éligibles au remploi, qui investissent dans des actifs éligibles au remploi. Donc, on va pouvoir investir dans des start-up, dans des sociétés en croissance, dans des sociétés déjà matures, déjà rentables, dans des bois et forêts, dans de l'hôtellerie. Enfin, pour le coup, c'est assez large. Mais ces fonds d'investissement ont des contraintes qui font qu'on doit les détenir au moins 5 ans.
D'accord.
Et généralement, elles ont des horizons d'investissement un peu plus longs.
Donc on peut croiser des véhicules d'investissement qui seront avec l'espèce d'autocollant éligible.
Exactement.
150 obéter. Vous saurez maintenant ce que c'est que si vous en croisez. Il y a que des avantages ou est-ce que parfois, enfin par exemple, vous nous parliez de vos clients, est-ce que parfois la stratégie était mise en place, les choses se font et puis le client se dit j'ai peut-être pas joué tout à fait le bon cheval. Est-ce qu'il y a des moments où finalement c'est peut-être pas 100% adapté?
Bien sûr. Alors, il y en a, et c'est pour ça que, comme toute stratégie patrimoniale et comme tout avantage fiscal, il faut d'abord prendre de la hauteur, regarder sa situation, ses objectifs, où on veut aller pour voir si c'est une stratégie.
Pas parce que le copain l'a fait que forcément, pour nous, ça va être idéal de le faire.
Ouais. Exactement. Parce qu'en réalité, comme on doit réinvestir 60% du fruit de cession dans des actifs éligibles, qui sont souvent bloqués à long terme, ça veut dire qu'on n'a plus que 40% pour faire un peu ce qu'on veut en termes d'investissement. Et en plus, on est dans une société patrimoniale à l'IS, donc c'est aussi un petit peu contraignant. Donc d'un point de vue fiscal, c'est très bien. J'ai beaucoup de clients qui, après coup, regrettent d'avoir fait de l'apport cession pour un montant trop important, parce qu'on n'est pas obligé de faire un apport cession sur l'intégralité des titres de sa société.
C'est bien on peut saucissonner.
On peut saucissonner, on peut se dire qu'on voit une partie à titre personnel et une partie via la holding. Et c'est surtout via la holding qu'on va privilégier des investissements à long terme. Donc il faut se dire de quel montant j'ai pas besoin en réalité avant un certain temps pour pouvoir vivre et répondre à mes objectifs personnels, puisque le but c'est pas non plus de s'arrêter de vivre une fois qu'on a cédé sa société.
Transmettre et peut-être effectivement avoir à disposition ces capitaux.
Ouais. C'est ça. Et du coup l'enjeu principal généralement quand on cède sa société, c'est quand même d'avoir des revenus complémentaires. Si on est sur un chef d'entreprise qui part à la retraite ou qui arrête son activité dans le but d'en relancer une, il faut maintenir son niveau de vie. Et donc quand on est dans une société holding LIS avec des contraintes de remploi sur 60% sur des actifs qui sont investis plutôt à long terme, qui ne distribuent pas forcément, on est un peu limité. On n'a plus que 40% pour générer du résultat distribuable qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et si on veut le récupérer à titre personnel, on va devoir encore payer la flat tax au titre des distributions de dividendes. Donc, ça handicape un petit peu pour se générer des revenus complémentaires.
Donc, attention, le dispositif est très intéressant. Voilà. Il mérite d'être regardé, mais il ne faut pas oublier les quelques limites, entre guillemets, ou les quelques points d'attention qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, qu'il convient d'avoir en tête, d'avoir noté sur son petit post-it au moment où on se met à réfléchir en se disant, tiens, est-ce que je me jette corps et âme dans ce 150 obéter?
Oui, il y a d'autres points. Il y en a un que j'aime bien rappeler, parce que même si on n'a pas besoin de cet argent, on n'est pas forcément... On n'a pas forcément le profil qui permet d'investir sur ce type de solution. Si c'est le travail de toute une vie, on doit réinvestir 60% dans des actifs éligibles. Les actifs éligibles, c'est l'économie réelle. C'est des investissements qui ont des risques de perte en capital. Le but, c'est pas de se dire, j'optimise ma fiscalité, mais je dors plus la nuit parce que j'ai mis 60% de mon patrimoine que j'ai mis toute une vie à construire dans des actifs qui peuvent être un petit peu risqués. Donc, il y a ce point-là. Il faut aussi voir comment on se sent avec les investissements et avec quoi on est à l'aise. Il y a un point qui est important également, c'est que c'est la question des revenus complémentaires. En fait, les revenus distribuables dans une société LIS, ils sont cantonnés aux résultats qu'on va réussir à générer. Donc, on est très limité sur l'enveloppe. Donc, si demain, on a besoin de faire une réduction de capital parce qu'on n'arrive pas à générer assez de revenus, c'est ce moment-là, où la fiscalité qui a été placée en report va être exigible. Et donc, à ce moment-là, quand on va sortir l'argent, on va payer la fiscalité. C'est pas très grave parce qu'on l'aura figé à un taux de 34% qui est plutôt avantageux aujourd'hui. On sait pas ce qui sera demain. Mais voilà, on va devoir être redevable de cette fiscalité. Donc, la fiscalité est vraiment en report. Elle est pas purgée.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est vraiment, on décale le paiement, mais on va passer à la casserole un jour, sauf si on a deux cas pour purger la fiscalité. C'est le décès de l'apporteur, du coup ça purge complètement, ou la transmission.
Très intéressant pour la...
Voilà, c'est l'avantage après est un petit peu perdu pour lui, sinon c'est la transmission aux enfants. Et donc la transmission aux enfants, on purge la plus-value après le respect d'un délai de 5 ans ou de 10 ans si on a investi via des fonds d'investissement pour son remploi.
D'accord.
Donc ça demande quand même un peu de temps devant soi. Et donc c'est pas forcément adapté à toutes les stratégies patrimoniales. Peut-être que quand on a cédé son entreprise, on a envie d'aider ses enfants à acheter leur résidence principale. Ouais. On a envie de s'acheter nous-mêmes une nouvelle résidence.
Ou à développer eux-mêmes des entreprises.
Exactement, c'est ça. Ou s'acheter une résidence secondaire pour profiter de sa vie pour profiter après sa vie de travail. Et quand on est dans une structure à l'IS, c'est pas forcément la meilleure solution.
Donc ça veut dire qu'on pourrait quasiment reprendre pour conclure un mantra qu'on devrait toujours avoir en tête quand on est justement dans cette gestion de patrimoine. Elodie Rose, c'est de se dire OK, il y a des avantages fiscaux qui existent, c'est bien de pouvoir en profiter, mais il faut pas se jeter tête baissée dedans en disant juste il y a un avantage fiscal.
Exactement.
C'est à étudier dans sa globalité, et ça, on le dit souvent quand même.
C'est vrai, les avantages fiscaux, c'est bien, mais ça doit pas du tout être l'élément principal pour guider et pour faire des stratégies patrimoniales. Et c'est pour ça que quand on a une cession d'entreprise à venir, c'est important d'anticiper, de pouvoir en discuter avec son avocat fiscaliste, avec son expert comptable, avec un conseiller en gestion de patrimoine, pour pouvoir vraiment réaliser une étude patrimoniale globale, prendre de la hauteur sur ses objectifs, sur ce qu'on veut, ce dont on aura besoin, et justement décider si l'apport cession, ça peut être très bien dans certains cas, si on a envie de recréer une société, si on a besoin d'investir à long terme et qu'on n'a pas besoin de cet argent, c'est super. Mais dans le cas où on a besoin de revenus complémentaires, qu'on veut transmettre, qu'on veut faire des investissements à titre personnel, c'est un peu plus contraignant.
Vous savez tout ou presque sur l'apport cession grâce à Élodie Rouault. Merci Élodie d'être passée sur Radio Patrimoine pour Cœur de Patrimoine. Donc Élodie Rouault, Altos Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et une vision marché à présent grâce à Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Financière Arbevel dans Cœur de Patrimoine. Merci d'être là Thibaut. Les marchés donc qui regardent nos banques centrales et qui se disent qu'ils vont peut-être, nos marchés, vivre un tournant historique, à savoir voir la Fed se faire damer le pion, j'ai envie de dire, par la Banque Centrale Européenne qui, pour une fois, prendrait l'initiative en matière de choix de politique monétaire. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ce tournant peut-être historique?
Alors, tout d'abord, c'est un scénario qu'on embrasse hein, chez Arbevel. L'idée que la BCE va agir avant la Fed est quelque chose qui nous semble tout à fait logique, tout à fait clair. Ce qui est plus compliqué, c'est d'appeler ça historique. C'est vrai qu'il y a un côté symbolique sympa. Il ne faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne est une banque jeune, de par cette histoire européenne qui est finalement assez récente, que la Banque Européenne pré-Mario Draghi est une banque centrale européenne qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui en termes de flexibilité, d'ouverture, de vision des taux. On se souvient tous évidemment de ces magnifiques hausses de taux de 2008 et de 2011. Et depuis, en fait, des cycles de baisse de taux, il y en a eu deux, quoi. Donc, pour faire un historique de « on va après les autres », c'est peut-être un peu court.
Certes.
Le dernier point,
vous connaissez les tropismes des journalistes qui veulent toujours
non,
en faire trop.
Hein. C'est pas faux, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'entends certains dire « puisque c'est jamais arrivé, ça ne doit pas arriver », je pense que si on avait un échantillon de 250 fois, je comprendrais. Là, on a un échantillon très restreint. Le deuxième truc que je voudrais ajouter, qui me semble quand même particulièrement important, c'est que, en fait, la notion de déficit public est une notion qui, à part quand on parle politique, notation, a disparu. Tout le monde s'en fout. On nous dit juste que quand la France a 5 de déficit, c'est cata. Alors que quand c'est les États-Unis, quand on 6,5, c'est parfait. Oui. Le point qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui près de 3,5 d'écart de déficit entre la zone euro et les États-Unis. Ce qui est colossal et ce qui, pour le coup, n'est jamais arrivé. Et donc, quand on a un déficit autant écarté entre les États-Unis et l'Europe que donc on surstimule l'économie américaine, en déduire que du coup, on crée plus d'inflation aux États-Unis qu'en Europe et que donc la politique monétaire américaine a vocation à être plus restrictive qu'en Europe, c'est plus la conséquence très logique d'une situation atypique que la situation atypique en elle-même. Donc, en fait, ce qui est original, ce n'est pas cette action plus rapide de l'Europe, c'est cet écart de dynamique fiscale et budgétaire entre les deux zones, qui après aura des conséquences.
Souvent, enfin, j'imagine les épargnants, quand ils parcourent les publications, les articles dans la presse économique et financière, ils peuvent aussi lire effectivement, c'est pas bien grave si la BCE dégaine la première, etc., mais que ce sera plutôt si la Fed ne venait pas à baisser, voire peut-être remontait, et que là, du coup, il y aurait une espèce de maelstrom sur la devise, etc. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qu'il faut avoir absolument en tête, ou est-ce que ce sont encore des scénario un petit peu à l'emporte-pièce ou à la mort moelle-neuve.
Je crois que ça n'a aucun sens, pour appeler un chat un chat. C'est-à-dire, l'idée qu'on a défendue longtemps chez Arbevel, que le dernier pas est le plus compliqué, c'est vrai. Le dernier pas, il est plus compliqué parce qu'on pourrait sortir de cette crise avec un peu plus d'inflation qu'avant. Et quand, comme en Europe, on était avant à 1, si on est un peu plus haut, on peut très vite être à 2. Donc on n'a pas vraiment de problème. Aux États-Unis, on était plutôt à 2. Donc si on est un peu plus haut, on est quand même un peu au-dessus de l'objectif. Donc cette idée que le dernier pas est plus dur, et particulièrement aux États-Unis, c'est un scénario qui est le nôtre. En revanche, il faut sortir de la caricature qui est de dire on monte les taux ou on les baisse, les taux vont à 5 ou ils vont à 0. Ça, c'est une caricature qui n'a aucun sens. Si on veut lutter contre une inflation à 10, avec des taux entre 4,5 et 5,5 dans les diverses zones, ça a du sens. L'idée que quand cette inflation arrive entre 2 et 3, il est approprié d'aller à 4, à 3, à 2, à 2,5, à 1,50, j'en sais rien, on va le voir au fil du temps, ça paraît très logique. En revanche, l'idée qu'il faudrait aller à 6 aux États-Unis pour contrer une inflation à 3 et quelques, alors qu'on allait à 5 pour lui contrer une inflation qui était quasiment à 10, eh bien que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans quelque chose de moins caricatural désormais. On a besoin d'affiner ces scénarios. Et à la limite même, la date de la première baisse, ça n'a aucun intérêt. C'est symbolique parce que quand tout le monde commence à bouger les flux en se disant les obligations, c'est moins intéressant, on revient vers les actions, ça a des impacts. Mais il faut pas se mentir non plus. Le gros du sujet aujourd'hui, c'est de sortir de cette dichotomie taux zéro, taux au max.
D'accord.
Et de voir quel est le bon niveau de stabilisation qui est forcément structurellement un intermédiaire.
Vous prononciez le mot symbolique. Il y a un autre symbole que la Fed a forcément dans son viseur, c'est celle des élections, de l'élection présidentielle américaine. Et on sait qu'il y a là aussi une espèce de carcan, alors psychologique, parce qu'il n'est pas statutaire, c'est écrit nulle part, hein, mais qui laisse entendre que la Fed ne doit pas influencer l'élection et que donc... traditionnellement, elle évite d'agir trop proche d'une élection. Du coup, là, son calendrier, il devient quand même serré, non ?
Absolument, mais vous le voyez, Cédric, la réaction aux banques centrales, le sujet est moins la baisse ou la hausse de 0,25 qui est envisagée que la grande tendance. La grande tendance, bah, elle est toujours claire, c'est plutôt à la baisse des taux, avec une détente qui pourrait être un peu plus poussée en Europe, parce qu'on est quand même plus près des objectifs qu'aux États-Unis, où on peut pas non plus se permettre de baisser les taux rapidement, après qu'il y ait une phase de 3 mois où on peut pas le faire, comme on n'est pas dans une phase d'accélération où on doit perdre un point ou 2 points, le fait de devoir zapper...
Le calendrier est peut-être moins important qu'à d'autres moments.
Ouais. Disons qu'en tout cas, il n'y a pas aux États-Unis un nombre de baisses de taux anticipées suffisamment fort pour que le fait d'avoir une ou deux dates un peu mortes soit gênant. Donc je pense que c'est pas vraiment un sujet. Faut néanmoins noter qu'on a de plus en plus souvent des élections décisives entre les mi-mandats, les pleins mandats et toutes celles en Europe. Donc c'est vrai que la politique s'intègre assez souvent maintenant pour les banques centrales. Bon. Dur métier.
On a fait le tour de cette question, enfin le tour, on a évoqué assez longuement cette question de banque centrale. Du coup, si on regarde nos marchés, une fois qu'on s'est dit tout ça, ils sont quand même au perché. Et il y a toujours la question, notamment chez les particuliers, notamment chez les épargnants, de se dire, est-ce que c'est le moment où il faut que je vende ? Est-ce que c'est encore le moment où il faut que je rentre ? Enfin voilà, est-ce que aujourd'hui, il faut être positionné, il faut se positionner sur ces actifs actions ?
Ouais, c'est intéressant parce que le mot action, c'est un mot simple, mais en réalité, on est sur des choses qui sont très protéiformes. Hein. Si on prend les actions américaines technologiques, elles sont à des niveaux qui sont assez élevés, même si on a simplement comblé le trou de 2022. Mais beaucoup d'entre elles sont encore un peu au fond du trou. Si on regarde des secteurs comme la Chine, comme les actions de plus petite taille, on est un peu au milieu d'un champ de ruines. Donc c'est vrai que, en fait, on est sur quelque chose où le mot action a du sens, mais en même temps, il en a pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une rotation de thématiques, parce qu'en fait, on est dans des logiques de flux. On le voit encore avec, vous savez, ce qu'on appelait les meme stocks, c'est-à-dire ces actions que les gens jouaient un peu pour le fun, comme GameStop, hein, qui était la maison mère de Micromania. Vous voyez, qui voit son cours monter de 100%, rebaisser de 40%. Vous voyez, le marché se cherche des tendances de flux. On a eu cette ruée vers les petites et moyennes valeurs jusqu'à 2016-17. Ensuite, on est allé sur des gens qui achetaient des choses thématiques. On a eu l'émergence de tous les fonds thématiques, santé, vert, etc. Et puis, depuis 2-3 ans, c'est la ruée vers les ETF pour chasser les très grandes capitalisations et les plus gros poids de chaque indice, avec du coup les top capitalisations.
Parce que les très grandes valeurs sont devenues quasiment inabordables.
Enfin, voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, certains, quand on regarde effectivement les D. Hermès, qu'on regarde cette valeur américaine, on se dit, on a des multiples à 30, 40, 50, toutes sont pas si chères que ça. D'ailleurs, Apple, par exemple, est pas si chère que ça. Mais globalement, on a un marché bien valorisé. À côté de ça, on a un peu des champs de ruines. C'est le cas en Chine, c'est le cas dans les petites et moyennes valeurs. Et on voit, particulièrement vrai, là, sur 2 ou 3 semaines, où par exemple, le CAC Small, qui avait quasiment 10 points de retard sur le CAC 40, a quasiment tout récupéré. On voit que là, on a quand même l'idée que beaucoup d'investisseurs pensent que certaines grandes valeurs sont à un bon prix, sont pas problématiques, sont pas délirantes, sont pas mauvaises, mais sont à un prix où l'opportunité de court terme pour cet argent qui bouge assez vite est moins forte. Et il y a une recherche d'aller sur des valeurs moins chères.
Donc faut aller chasser sur ces champs de ruines justement, ou voilà. Alors il faut faire de la value contre de la croissance, des défensives, enfin.
Faut probablement déjà essayer.
Ça doit être quoi le maître mot ou les maîtres mots d'une gestion en ce moment?
Oui, le problème, c'est qu'en ce moment, on finit toujours par dire que le maître mot, c'est la sélectivité, alors qu'il n'y a pas tellement de moments où il faut tirer au hasard avant d'acheter. Donc, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que, un, il faut probablement, ce que nous a appris le marché ces dernières années, c'est la violence des écarts entre types d'actions. Entre, d'un côté, par exemple, Chine et Inde, de l'autre, entre petites et moyennes valeurs et grandes valeurs, où on a vu quasiment 40% d'écart sur 3 ans. Et donc, la première chose, je pense, c'est une diversification, pour essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quand les mouvements de marché vont très vite. La deuxième, c'est d'observer que les flux vont là où on pense qu'il peut y avoir des belles histoires. On voit par exemple que sur des stratégies vertes, hein, on a eu 4, 5, 6 EPA de belles valeurs en Europe depuis le début de l'année. Donc là, les gens peuvent se dire, il y a un secteur décoté, tout le monde commence à racheter, il faut peut-être y aller. On a eu d'autres secteurs. On peut penser aujourd'hui à l'opération qui est faite par Uber sur Delivery Hero, qui est intéressante parce que ce secteur de la livraison, à des acteurs comme HelloFresh, a été un peu massacré. Et donc on voit que en fait, il y a une traction et qu'il y a moyen d'aller plus haut. Donc, je pense que l'idée de chasser des choses qui sont assez décotées, auxquelles le marché s'intéressait pas et sur lesquelles il commence à s'intéresser, est quelque chose qu'on attendait depuis 1 ou 2 ans en termes de signal. Il n'y avait pas grand chose. Aujourd'hui, entre les logiques institutionnelles, l'étincelle, les initiatives type TIBI, c'est-à-dire tout ce qui est fait par l'État en se disant, s'il y a tout le monde veut faire du non-côté, mais qu'il n'y a plus personne pour faire le relais avec les grandes valeurs, ça n'a pas de sens non plus. et un intérêt des sociétés qui commencent à racheter, je pense que ce segment petite valeur semble avoir un bon départ. Et dans les valeurs qui n'étaient pas dans les flux qui reviennent, la Chine a un peu le même comportement, hein, avec un marché dont plus personne ne voulait, tout le monde voulait aller vers l'Inde. Et on voit que après un mois de janvier à moins 10, on a quand même récupéré énormément sur ce type d'actifs. Donc voilà, un marché qui est probablement en train de refaire une sorte de nouveau focus, sortir un peu de ce tout ETF pour retourner vers des choses plus stock picking. C'est peut-être aussi ce qu'on a envie de voir chez Herbevel, parce que ça nous plaît, mais on voit qu'il y a des choses assez concrètes dans la recherche des investisseurs finaux, des grandes sociétés qui veulent faire leurs emplettes à pas cher. Donc probablement quelque chose de la surveiller.
Est-ce que on doit se concentrer vraiment sur le monde action, ou est-ce qu'il faut regarder aussi encore un peu, et peut-être plus singulièrement sur ce moment de changement de pied des banques centrales, le monde obligataire? On se souvient que au moment très opportun chez Herbevel, vous aviez sorti des stratégies assez intéressantes en termes obligataires, avec du portage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on a une dernière petite fenêtre, peut-être, où il va falloir justement acter là où on est pour en bénéficier encore au moment où les taux vont bouger?
Bah oui, c'est vrai, parce que on voit bien qu'il y a eu un moment obligataire qui a été très clair. On a lancé effectivement son que vous évoluez, qui est sur les obligations de 2028, hein, qui a collecté, qui doit faire pas loin de 400 millions, qui est géré par l'équipe de David Letellier avec Randan Blanc en particulier, que vous connaissez bien. C'est un vrai succès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de très consensuel. Les investisseurs institutionnels en ont toujours fait. Les particuliers, ceux qui peuvent se le permettre en fonction de leur support, si leur argent est dans un PEA ou dans des comptes titres, en ont fait. Et en fait, quelque part, c'est toujours aussi vrai. Il y a toujours un intérêt, parce que les taux ont plutôt remonté depuis le début de l'année. Donc qu'on soit fan de titres bien notés, moyennement notés ou de dettes privées, il y a vraiment aujourd'hui un monde obligataire qui est très fort. Mais en fait, quelque part, quand on parle d'actions chinoises et de petites valeurs, en fait, on parle d'un changement par rapport à il y a 2 ou 3 mois. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'était pas intéressant et qui semble le redevenir. Sur l'obligataire, effectivement, le sentiment que ça l'a été depuis presque un an, avec des performances à 2 chiffres l'année dernière, que ça l'était depuis le début de l'année et que ça l'est à nouveau, ça reste quelque chose de très consensuel. Là où vous avez raison, Cédric, c'est que il est peut-être possible, pour en tout cas ceux qui sont les plus optimistes sur une action forte des banques centrales, en particulier en Europe, que cette fenêtre de tir soit peut-être un peu moins courte. Nous, on pense qu'on aura le temps, parce que l'inflation baisse un peu moins vite que prévu. D'accord. Mais néanmoins, pour ceux qui ont peur que ça parte sans eux, c'est vrai que la tentation d'y aller est assez bonne, puisque de toute façon, le gros avantage sur ce type d'actif, c'est que quand vous portez du 6%, même s'il y a des risques qui vont avec, quelque part, le fait d'avoir été venu un peu trop tôt est moins grave que si vous allez sur un marché action qui s'apprête à rebaisser fortement. Ouais. Donc c'est vrai que oui, vous avez raison, il y a une opportunité. Après, elle commence à être bien identifiée, à durer depuis un certain temps. Alors que c'est vrai que sur d'autres classes d'actifs qu'on évoquait, entre autres par exemple les actions chinoises, on a le sentiment qu'il se passe peut-être quelque chose, même si encore aujourd'hui, hein, avec les annonces potentielles de droits de douane sur certains produits par les États-Unis, on voit que ces tensions géopolitiques envers la Chine sont peut-être déjà bien intégrées par le marché, mais sont quand même toujours bien présentes.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Prébet, financière Herbevel, dans Cœur de Patrimoine. On se retrouve tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on va évoquer à présent la philanthropie. Et oui, ça fait partie de la gestion de patrimoine. Vous le savez, j'y tiens. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines avec Valérie Aubier. Et on y revient aujourd'hui avec Laure Varasté. Bonjour Laure.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous sur Radio Patrimoine. Ingénieur patrimonial pour Odo BHF, banque privée. Alors quand on interroge les Français, eh bien on s'aperçoit que 1 sur 2 déclare faire un don au moins une fois par an, pour soutenir telle ou telle cause qui les intéresse plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des chiffres un petit peu plus précis? Qu'est-ce qu'on peut dire justement autour de cette philanthropie?
En réalité, c'est assez compliqué en fait de trouver des statistiques ou des chiffres qui montrent vraiment ou qui nous permettent d'avoir une véritable vision de la philanthropie et de ce panorama complet de la générosité des Français, en fait. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais il y a quand même des organismes, en réalité, qui nous donnent certaines statistiques.
Bercy ne fait pas trop de réclames, quoi.
Alors, il se trouve que l'administration fiscale a publié une étude basée sur les 10 dernières années, enfin 10 dernières années de 2011 à 2021, donc il y a déjà un décalage qui se crée, des statistiques du coup sur l'évolution de cette générosité pour les particuliers sur 10 ans et pour les entreprises sur 5 ans. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit finalement qu'il y a plus de 5 milliards 9 de dons qui ont été réalisés en 2021, qui se répartissent beaucoup pour les particuliers, à plus de 3 milliards 3, je crois, et pour les entreprises, le reliquat. Mais avec une évolution qui, sur 10 ans, a été multipliée par 2 pour les particuliers, par 3 pour les entreprises, donc c'est vrai, et sur 5 ans. Donc c'est vrai qu'on a un environnement en fait qui évolue beaucoup. Alors c'est vrai que cette étude, elle nous permet un petit peu plus de comprendre comment les Français agissent, mais c'est aussi un peu un côté émergé de l'iceberg, je dirais, dans le sens où ce sont le résultat, enfin les statistiques de ce qui est déclaré.
Ah oui.
Or, bon, ben là, on est en pleine déclaration de revenus, donc pour...
Oui, il y a des Français qui font des dons, mais qui ne les déclarent pas à l'administration fiscale, enfin qui n'en profitent pas,
entre guillemets. Qui n'en profitent pas automatiquement. Et également parce qu'il y a aussi tout un tas de dons qui ne donnent pas automatiquement au droit à un avantage fiscal. Et on l'a vu beaucoup se développer toutes ces dernières années, particulièrement depuis le Covid, avec, je pense en particulier aux arrondis, au moment quand on passe en caisse pour soutenir une association. Bon, bah, il va s'agir de quelques centimes,
ce sont des dons quand même, mais bien évidemment, ils n'ouvrent droit à rien.
Exactement.
Ouais. Justement, aujourd'hui, on peut rappeler un petit peu le régime, parce que c'est vrai que chacun, enfin les Français sont en train de remplir leur déclaration d'impôt, pour ceux qui sont en tout cas concernés. Et effectivement, ça donne droit à des choses, ces dons.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle plutôt, enfin, très souvent des dons à des associations qui permettent des réductions d'impôt sur le revenu. Là, il y a pas mal en fait de catégories, je dirais. Tous les versements qui vont être faits au profit d'associations de personnes en difficulté, ça va ouvrir droit à des réductions d'impôts de 75% sur les versements réalisés mais pris dans la limite de 1000 euros. En revanche, pour tous les autres dons, enfin, il y a également des dons pour supporter les fondations du patrimoine depuis septembre, je crois, 2023, et ça sera ouvert jusqu'à fin 2025. Sinon, tous les autres dons à des associations donnent droit également à une réduction d'impôt, mais à hauteur de 66% des versements qui eux-mêmes seront pris dans la limite de 20% de son revenu net imposable. Donc ça permet un peu plus de dons et un peu plus de générosité avec à la clé une réduction. En revanche, si jamais on dépasse, ça, une bonne chose, c'est qu'on pourra reporter ses dons pendant les 5 années suivantes. Et autre bonne nouvelle, c'est que ça ne fait pas partie du plafonnement des niches fiscales.
D'accord.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un avantage fiscal sans contrepartie. Et du coup, ça n'est pas plafonné au regard de la réduction d'impôt.
Ça veut dire, Laure Varasté, que les donateurs, enfin, quand on est contribuable et donateur, il faut développer une forme de stratégie, on va dire, dans sa philanthropie.
Sans doute. C'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a d'autres sources de réduction d'impôts, d'ailleurs, pour les éligibles à l'IFI. On a aussi une autre réduction d'impôts. Alors, c'est vrai que c'est d'autres associations. Bon, ça, c'est une autre stratégie également, puisque la réduction, elle est à hauteur de 75%, mais dans la limite de 50 000 euros de réduction d'IFI, hein, du coup. C'est un autre univers, quand même, mais ça permet aussi de réduire les impôts. Mais là, on est vraiment dans une stratégie réduction d'impôts.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'il y a d'autres types, finalement, de stratégies qui peuvent intervenir. Par exemple, on pense souvent à donner des liquidités pour aider ces associations, parce que ça leur permet justement de financer leur objet social, enfin bon, les œuvres qui doivent être développées. Mais on peut très bien, si j'ai un portefeuille titre avec de très fortes plus-values, je peux faire don de ce portefeuille titre.
Ah oui.
Du coup, je n'ai pas à acquitter la plus-value, l'impôt sur la plus-value que je vais matérialiser. Et l'association,
et je donne mes actions directement.
Directement. Ouais. Donc la fondation, bah, soit elle conserve les actions, soit elle les vend et elle peut également financer son œuvre philanthropique. Donc c'est une autre stratégie qui peut intervenir avec à la clé, bah, là une économie. Alors c'est pas une réduction d'impôt.
Bien sûr.
Mais je ne vais pas avoir à quitter mon impôt sur la plus-value.
Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour aider, pour se montrer généreux, on va dire?
Oui, toujours de son vivant, parce que j'en aura aussi un volet succession.
Effectivement.
Mais c'est vrai que, parce que c'est vrai qu'on parle de dons, faut avoir en tête que les associations, les fondations sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire de droits de donation ou de droits de succession. Donc c'est pour ça qu'on en parlera également.
Donc tant qu'on est vivant.
Tant qu'on est vivant, ben, je peux souhaiter temporairement aider une association et donc abandonner un revenu. Donc je peux très bien dire cet usufruit, je vais le donner à cette association pour qu'elle puisse, au lieu que moi je fasse une donation chaque année, je lui abandonne pendant X temps, alors ça peut être 3 ans minimum, 5 ans, 10 ans, c'est moi qui choisis, mais je ne me dessaisis pas définitivement de ce
D'accord,
bien.
Donc je reste propriétaire.
Exactement. Et ça, du coup, je peux le récupérer. Si j'ai des enfants, je pourrais les transmettre à terme. Et si au contraire, j'ai pas d'enfants, autre solution, justement, un testament. Un testament D'accord. pour lequel je vais pouvoir désigner une association, une fondation. Et éventuellement, si j'ai effectivement pas de descendants directs ou quand même des personnes que je souhaiterais gratifier, je peux très bien également faire, dans le cadre de ce testament, des legs particuliers. C'est-à-dire que je donnerai à l'association, à la fondation, la charge d'attribuer des legs particuliers.
Ah, je vous donne un énorme capital, mais vous devez en redonner une partie à telle ou telle personne.
Mais je vais pouvoir utiliser en fait l'impôt que j'économise, puisqu'il n'y aura pas les droits de succession, du moins pas à la même, au même taux, enfin si, au même taux, mais pas sur la même assiette. Mais donc je vais économiser, je vais quelque part flécher l'impôt qui devrait être acquitté vers l'association de mon choix. Ça, c'est de mon vivant, je peux décider cela.
D'accord. Et on peut aussi inscrire les associations sur une clause bénéficiaire d'assurance vie.
Bien sûr. Alors ça, de toute façon, elles sont tout à fait...
On entend pas mal de réclames.
Complètement. Hein. Oui, c'est vrai.
Des associations qui ont des services dédiés pour vous accompagner si vous vous posez la question de comment on fait.
Effectivement, il y a de nombreuses fondations qui sont tout à fait capables de gérer tout cela. Des plus petites associations qui auront peut-être plus de mal à récupérer, si je puis dire, à hériter d'un portefeuille ou d'un bien immobilier. D'ailleurs, c'est vrai que parfois c'est plus compliqué à gérer. Donc il faut, c'est là aussi où il y a une stratégie à avoir, de bien cibler quel type déjà de cause, tout bêtement, on souhaite soutenir et comment leur transmettre à terme.
Et justement, enfin, quand on, je le professe, hein, cette philanthropie, elle fait partie de la gestion de patrimoine. Ça veut dire que chez Odo BHF Banque Privée, par exemple, bien évidemment, on est là pour faire fructifier le patrimoine de ses clients, pour les guider dans le labyrinthe fiscal, civil, etc. Mais vous accompagnez aussi vos clients dans ces démarches philanthropiques. Pour savoir comment on fait justement pour rédiger sa clause bénéficiaire, pour faire un leg, pour...
Exactement. En fait, on va avoir un peu tous les cas de figure. C'est vrai que dans nos clients, on va avoir à la fois des fortunes, mais avec des descendants qu'on souhaite absolument gratifier. Donc, ça va peut-être plus être une aide au fur et à mesure du temps, mais ça peut aussi résulter d'un projet carrément familial, j'ai envie de dire, où ce n'est pas que les parents, mais l'ensemble de la famille qui souhaite soutenir une œuvre, et on peut très bien les accompagner dans la création d'un fonds de dotation ou d'une fondation abritée, Fondation de France ou autre, de façon à pouvoir développer. Et là, on va les aider et les accompagner dans toute cette mise en place, voire même dans la gestion derrière des capitaux et le choix des œuvres. Donc ça peut aller un petit peu à différents niveaux, je dirais, d'intervention. Comme ça peut être simplement, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver telle ou telle œuvre?
Bon. Et comment je m'y prends, quoi?
Comment je m'y prends exactement et comment je choisis? Voilà.
Merci beaucoup, Laure. Laure Varasté et Odo BHF Banque Privée qui nous accompagnaient dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt, Laure, et merci d'être venu sur Radio Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on s'intéresse maintenant à un actif qui fait souvent parler de lui, qui est parfois un petit peu critiqué par certains. Cet actif, c'est l'or. Et pour en parler, Andy Buscaglia est avec nous. Bonjour Andy.
Bonjour Cédric, bonjour à tous les auditeurs.
Merci de nous rejoindre sur Radio Patrimoine depuis mon bureau patrimonial. Alors, pourquoi s'intéresser à l'or aujourd'hui? On le sait, les cours sont au plus haut, Andy. Quelles sont d'abord les raisons de la hausse? Parce que ça peut être un peu contre-intuitif quand on regarde les métriques.
Tout à fait, hein. Si on regarde les métriques, on a des taux réels plus élevés, on a un dollar plus fort. On a une perspective de moins forte baisse des taux de la part des banques centrales. Donc normalement, si on isole ces facteurs-là, en principe, on aurait dû avoir des cours de l'or qui seraient un petit peu perturbés à la baisse. Et vous l'avez dit, hein, on atteint des niveaux élevés. Effectivement, l'or a bien monté ces dernières semaines. Et plusieurs facteurs hein, par rapport à ça. Bien entendu, les tensions géopolitiques, hein, le traditionnel rôle de valeur refuge qui est joué par l'or. On a également la prise de conscience de déficit et de dette publique occidentale, et en particulier américaine, à des niveaux qui deviennent structurellement intenables. Hein. On voit que on est rentré dans une sorte de spirale de la dette. Donc forcément, ça, c'est un facteur qui peut être favorable à l'or. Mmh. On a également une moindre confiance en faveur du dollar, hein, parce que historiquement, c'est utilisé comme réserve de change hein, par les autres banques centrales. Et là, on a vu que dans le cadre des dernières tensions géopolitiques, ce à quoi on a pu assister au cours de ces trois dernières années, finalement, le dollar, il a été en quelque sorte utilisé comme arme par les États-Unis. Hein, c'est-à-dire que on peut dire que, en quelque sorte, la militarisation du dollar depuis la guerre en Ukraine a pu contrarier tous les pays qui étaient alignés sur l'axe autoritaire de la Chine et de la Russie. Et donc voilà, personne peut vraiment se sentir en sécurité en plaçant de l'argent dans des titres occidentaux alors qu'on a eu un jet des réserves de change de la Russie. Donc voilà, l'ordre mondial basé sur le dollar, il est peut-être en train d'évoluer.
Et est-ce que malgré tout, on doit se dire que la hausse de cet actif, de l'or dont on parle ensemble, cette hausse, elle est derrière nous et que donc on a plus beaucoup de fenêtres de tir, ou est-ce que il y a encore un moment pour investir?
Eh bien, alors c'est toujours difficile à dire effectivement, parce que on a une forte remontée au-dessus des 2400 dollars l'once, donc c'est bon, quand même plus 20% depuis mi-février seulement. Hein. On a eu depuis une correction là au cours du dernier mois écoulé pour revenir en dessous des 2300. Et depuis, bon, il est un peu remonté, là, on est aux alentours de 2350. Bon, on peut dire que c'est une saine correction face à l'os qui a été quand même assez impressionnante. Donc, la question qu'on se pose effectivement, c'est est-ce qu'il y a encore du jus dans la case d'actifs? Et donc, bien sûr, hein, l'or est, en tant que matière première, c'est naturellement assujetti à des fluctuations. Forcément, il était plus intéressant de l'avoir en portefeuille avant cette forte hausse. Mais pour les investisseurs qui ont loupé le train, la question se pose. Hein. Moi, je vois passer beaucoup d'analyses techniques qui prédisent une forte hausse dans les prochains mois. Vous avez beaucoup d'analyses de grandes banques américaines qui sont haussiers, mais ça m'intéresse pas forcément. Parce que de toute manière, l'or peut faire l'objet de corrections violentes à la baisse. Hein. Il faut rappeler que c'est une matière première cotée sur les marchés. Même son rôle de valeur refuge, hein, quand on dit que l'or protège de tout, c'est pas forcément vrai. Hein, quand vous avez des chocs sur les marchés et que les gérants cherchent à créer de la liquidité, on doit se séparer des meilleurs actifs pour honorer les demandes de retrait. Ça peut faire baisser les cours de l'or dans une phase de sell-off. Hein, donc l'or, il ne joue pas forcément son rôle de valeur refuge à court terme.
Bien sûr.
Bon, et puis généralement, l'évolution des cours de l'or à court terme, ça dépend beaucoup des attentes en matière de taux d'intérêt et d'inflation. Donc si on a des signaux qui montrent que les taux vont rebaisser, forcément c'est favorable à l'or. Et inversement, ça marche aussi hein, dans l'autre sens. Hein, si on a des signaux comme quoi les taux vont remonter, ça peut être assez défavorable à l'or. Hein, on rappelle aux auditeurs que l'or, c'est en concurrence avec les produits de taux. Un investisseur qui a le choix des investissements sur un marché, quand il voit les taux qui remontent, forcément, il va peut-être plus s'intéresser aux produits de taux qui rapportent plus, du coup, parce que les taux d'intérêt ont monté, alors que l'or, lui, en soi, ne rapporte rien.
Oui, bien sûr.
On
dit juste, l'or a aussi ceci de particulier, c'est qu'on se demande comment, si on choisit d'accorder une place à l'or dans son portefeuille, dans son patrimoine, on a toujours la question de savoir sous quelle forme ? Est-ce que je me saigne pour acheter un lingot et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je l'enterre au fond de mon jardin ou est-ce que je mets sous mon matelas ? Est-ce que je prends des pièces de l'or d'investissement, enfin des pièces par exemple ? Est-ce que je prends ces nouveaux produits, enfin nouveaux, ils sont plus tout à fait nouveaux, mais ces lingotins ou autres parce que c'est plus petit qu'un lingot, c'est moins cher et peut-être plus facile à cacher ? Ou est-ce que j'utilise de l'or papier, entre guillemets, des certificats ? Ou est-ce que, encore une autre solution, est-ce que je vais sur des minières, enfin sur des sociétés qui sont, entre guillemets, accrochées, indexées ou très influencées par l'or. Selon vous, on s'y intéresse comment alors ?
Là, vous avez souligné pas mal de solutions d'investissement, Cédric. Alors, c'est vrai qu'il y en a plus complexes que d'autres. La forme la plus pure, effectivement, ça serait d'acheter un lingot et de le conserver, mais on sait qu'en pratique, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile de se procurer des lingots pour des sommes importantes. Il y a toute la problématique de la logistique, de la sécurité, de la conservation. C'est très difficile de se procurer de l'or dans les banques. Il faut plutôt passer par des boutiques spécialisées. Donc, se pose plein de problèmes.
Oui, c'est compliqué.
Très compliqué, très très compliqué. Après, vous avez tous les produits financiers indexés sur l'or, dont les ETF, effectivement, les certificats, etc. Ça, je vous avoue que je m'en méfie un petit peu, parce que quand on voit le volume de papier qui est émis par rapport à la quantité d'or réelle détenue par les émetteurs...
Vous lire la contrepartie laisse à désirer.
Exactement, on est sur un rapport environ de 1 à 100, si on fait une cote mal taillée. Donc, bon, on peut raisonnablement penser que le jour où des investisseurs souhaitent récupérer leur or en physique, ce ne sera pas forcément possible. Et donc, les promesses ne seront pas forcément tenues.
Je m'intéresserai plutôt des minières, quoi.
Je m'intéresserai plus particulièrement aux minières aurifères, effectivement. Alors, on rappelle le concept de minière aurifère, l'idée c'est d'investir dans des actions de sociétés qui exploitent des mines d'or. Donc forcément, vous avez une corrélation avec les cours de l'or, étant donné que ces sociétés vont extraire de l'or et vont le vendre sur les marchés au cours de l'or en vigueur. Donc forcément, quand les cours de l'or montent, si ces sociétés-là réussissent à maintenir leurs coûts à des niveaux raisonnables, toute chose égale par ailleurs, les bénéfices de ces sociétés-là, donc les mines d'or, peuvent monter fortement. D'ailleurs, on a souvent un effet de levier. On voit que quand les cours, ça dépend des phases de marché, mais en général, quand les cours de l'or montent de 1, les minières aurifères montent de 2, voire plus, et ça marche aussi à la baisse, il faut faire attention.
Attention au retournement, oui.
Exactement, exactement. Mais l'idée, vous voyez, c'est d'investir vraiment dans les pelles et les pioches dans le cadre de la nouvelle ruée vers l'or qui est en train de vraisemblablement de se mettre en place. Donc un bon moyen de détention, ça pourrait être par exemple d'avoir des mines d'or dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour bénéficier de la sécurité attachée à ce type d'enveloppe, qui peut aussi avoir des avantages civils, fiscaux, etc. Et donc ça peut venir en diversification d'autres classes d'actifs. Donc tout l'intérêt pour l'instant, c'est que personne ne regarde cette classe d'actifs. L'ajustement par rapport à la hausse des cours de l'or ne s'est pas encore véritablement produit. C'est-à-dire que les investisseurs, globalement, les analystes ne suivent pas vraiment cette classe d'actifs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment cette prise de conscience qu'avec des cours de l'or plus élevés, forcément, ces minières vont délivrer beaucoup plus. Aujourd'hui, vous trouvez des mines d'or qui délivrent entre 10-20% de free cash flow yield et qui se payent environ 6-7 fois les bénéfices, ce qui peut sembler assez intéressant compte tenu des valorisations qu'offrent les marchés actions plus globaux. D'une manière générale, inclure les mines d'or, ça peut apporter à un portefeuille une certaine forme de diversification. Voilà, ça offre une exposition au cours de l'or et à une classe d'actifs qui est un actif tangible finalement.
Vous parliez de diversification, il nous reste très peu de temps, Andy, mais juste, est-ce que il faut s'intéresser que à l'or, par exemple, ou est-ce que lorsque l'on se dit tiens, il y a un intérêt pour cette matière première, est-ce que il faut avoir un spectre un peu plus large et se dire ok, je suis tenté, je suis convaincu, l'or me paraît être un sous-jacent intéressant pour mon portefeuille. Est-ce que dans ces cas-là, je ne fais que de l'or, ou est-ce que il faut aussi regarder les proxys, ou entre guillemets les métaux précieux, par exemple? Est-ce que est-ce qu'ils marchent de commun?
Oui, effectivement, je pense qu'il, de manière générale, prendrai toujours la diversification. Effectivement, on peut étudier les autres alternatives. On pense notamment à l'argent. Donc les cours de l'argent, bon, c'est on va dire le métal précieux qui vient juste après l'or. Vous avez d'autres matières premières. Donc il faut noter que l'argent notamment et d'autres matières premières comme le cuivre. On va évidemment les observer dans D'accord. le cadre de la transition énergétique, le développement des technologies vertes, l'énergie globale. Donc forcément, on sait que il y a des ressources qui sont limitées. Les réserves de cuivre et de cobalt, par exemple, ça devrait disparaître à hauteur de 90% d'ici 2050. Donc forcément, vu les besoins en matière de transition énergétique, on peut penser que c'est aussi une classe d'actifs qui peut être à étudier. Par contre, bon, bah, il faut faire attention, effectivement, je mets en commun l'ensemble des matières premières plutôt industrielles. Forcément, c'est plus assujetti au risque de récession. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a une récession qui se matérialise, forcément, tout ce qui est matières premières, ça risque de prendre une petite claque, effectivement. Comme l'or, c'est-à-dire que d'une manière générale…
Ouais, parce que c'est un métal précieux, mais c'est aussi une matière industrielle.
C'est aussi une manière industrielle, donc il faut travailler les points d'entrée, en fait. C'est vraiment ça. Ça peut apporter beaucoup à un portefeuille, mais voilà, comme dans tous les investissements, les bonnes affaires se font à l'achat, et donc ce sont des thématiques qui sont quand même assujetties à des fluctuations importantes. Il faut souligner, c'est réservé aux investisseurs avertis ou alors bien accompagnés. Et voilà, il y a à la fois le risque de subir la volatilité une fois qu'on investit dans ces classes d'actifs-là, ouais. et aussi le risque de louper le train de la hausse. Bah, si on n'est pas dedans, si on n'est pas encore exposé.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ce métal précieux, l'or, mis en lumière par Andy Buzaglia depuis mon bureau patrimonial. À très bientôt, Andy. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Et nous, on continue à vous accompagner dans votre monde patrimonial. À tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Les Cœurs de Patrimoine s'intéressent maintenant aux Français et à l'immobilier grâce à une étude 7e vague signée Artémis Courtage et Ludovic Usieux est avec nous. Bonjour Ludovic.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour présenter cette 7e vague, je le disais, 7e qui s'est un petit peu laissée désirer parce que les 6 premières avaient été plus séquencées, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette 7e vague des Français et de l'IMO, parce que c'est pas facile l'immobilier en ce moment.
Non, c'est pas facile, c'est la 7e vague effectivement, et la 6e avait eu lieu en mars 2022, donc entre mars 2022 et mai 2024, il s'est passé 2-3 trucs sur le front du marché immobilier. On a connu une augmentation des taux de crédit, on a connu le taux d'usure dont personne n'avait entendu parler, on a connu le taux HCSF de 35% de charge, il s'est passé beaucoup de choses.
Tout a changé en fait.
Tout a changé ou quasiment, c'est pour ça aussi qu'on voulait redonner la parole aux Français et revenir aux fondamentaux dans une période qui avait été compliquée, on n'interrogeait plus les Français puis on avait d'autres priorités dans le groupe Artémis Courtage à traiter et à gérer. On s'est dit que c'était le bon moment parce que il y a un faisceau d'indispositifs et de signaux faibles mais qui se durcissent, qui nous font dire que le marché est de retour, que les banques sont de retour, que les taux sont stabilisés, voire même baissiers, et que c'était le bon moment d'interroger les Français pour savoir si notre réalité du terrain était confirmée par leur perception de ce marché immobilier, de ses conditions de crédit. C'est pour ça qu'on a lancé cette 7e vague.
Et du coup, ces Français, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Alors, ils nous ont dit d'abord qu'ils n'avaient jamais été aussi pessimistes sur le marché immobilier. C'est-à-dire qu'on leur a posé en question d'introduction, comment jugez-vous, pessimiste ou optimiste, l'état de la France d'un point de vue économique ? C'est à l'étal, toujours pessimiste aux alentours de 3/4 des Français, mais c'est la même chose que dans la vague précédente. En revanche, sur la question comment est le marché immobilier, êtes-vous pessimiste ? Ils sont pessimistes à plus de 60% et c'est en augmentation de 6%. Ouais. C'est-à-dire que il y a une perception qui est différente de cette période qui s'ouvre. Mais en réalité, il y a toujours un décalage entre la fin d'un cycle et la perception qu'en ont les Français. On est en plein dedans aujourd'hui. Et puis la troisième question qu'on leur a posée en introduction, c'est comment percevez-vous votre situation personnelle ? Et là, pour le coup, c'est kiff-kiff. 49-49. Et c'est même plutôt une bonne nouvelle et en progression. Ils sont plus optimistes qu'il y a deux ans pour des considérations, j'imagine, de hausse des salaires sur fonds d'inflation. Mmh. Leur situation, ils estiment qu'elle s'est améliorée alors qu'ils pensent très fortement que la situation du marché immobilier s'est dégradée. Et c'est un décalage entre la perception et la réalité parce que, je le disais, ce marché immobilier, il a été... appelons un chat, catastrophique pendant une année et demie ou deux, notamment les conditions d'accès au crédit. Mais là, depuis la fin de l'année 2023, depuis décembre, les taux sont stables et même baissiers. On a baissé de 0,40 à 0,50 depuis le début de l'année. La totalité des banques prêtent, ce qui n'avait pas été le cas pendant deux ans. Et quand je dis la totalité des banques, c'est régional, mutualiste, national. Tout le monde est revenu au guichet et tout le monde prête, fait du crédit immobilier. Pour ses clients, on n'a jamais fait autant de, de réunions commerciales et d'animations commerciales avec nos partenaires banquiers que depuis ce début d'année. Et puis enfin, il y a un regain de pouvoir d'achat aussi parce que les prix du mètre carré baissent un peu.
On va revenir justement sur les questions de prix et sur les questions de taux. Mais ces Français, vous notez quand même qu'il y a un tout petit mieux. Mais ils se précipitent quand même pas. Ils sont pas là comme des dingues à se dire bon bah ça y est maintenant je veux réinvestir, je vais me relancer dans ma quête immobilière, je vais changer de maison, je vais arrêter d'être locataire. Enfin, il y a pas un déterminisme très fort quand même.
Vous avez raison parce qu'on est dans cette période un peu d'attentisme entre le début des signaux positifs et la fin d'une crise de l'immobilier, c'est un bien grand mot, parce que le nombre de transactions est toujours solide et que les prix n'ont pas dévissé. Mais en tout cas, il y a une production de crédit en 2023 qui a été inférieure de moins 45%. Et on revient tout doucement aux affaires. Je dis différence de perception parce que en réalité, au mois d'avril, dans mon groupe Artemis Courtage, on a fait un mois d'avril qui était en progression de 24% par rapport au mois de mars et qui était en progression de 13% par rapport à avril 2023. Donc, les premiers signes tangibles sont là quand même. Ça va se concrétiser, c'est des avant-contrats, c'est le moment où on a une promesse de vente ou une offre d'achat et on cherche une banque. Ça va se concrétiser dans les 3-4 mois qui vont venir.
Qu'est-ce qui freine encore ou qui peut freiner encore le plus ? Ce sont les questions de taux, de crédit, de financement, ou ce sont les questions de prix de l'immo ?
C'est, alors, à mon sens, et en analysant les résultats de cette étude qu'on a présentée ce midi, c'est à mon sens les prix. C'est d'ailleurs le premier item qui ressort. Quels sont les freins aujourd'hui à mener à bien un projet immobilier ? À 40%, les Français citent le prix. Le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré. Il faut quand même rappeler qu'en deux ans, les taux sont passés en moyenne sur 20 ans de 1% à 4%, mais que dans le même temps, on a faiblement baissé les prix de l'immobilier de 7% sur une année glissante entre mars 2023 et mars 2024. Vous voyez bien que la baisse de pouvoir d'achat immobilier, elle est de l'ordre de 25% si on emprunte sur 25 ans. C'est un gouffre, c'est énorme. Ce qui m'amène à vous expliquer le deuxième frein à l'accès à la propriété aujourd'hui. Donc, cité en un, le prix de l'immobilier. Cité en deux, le montant de l'apport. Les banques demandent toujours plus d'apport. Pourquoi ? Parce que en fait, comme le pouvoir d'achat a baissé et qu'il faut quand même passer sous les fourches codines des 35% d'endettement.
Et qu'on ne réformera pas le HSF.
Pas tout de suite, j'en ai bien l'impression. Eh bien, les banques demandent pour rester sous ces 35% que les Français piochent dans leur épargne de précaution résiduelle, ce qui est possible quand on est secondo accédant ou qu'on a un coup de main de la part de ses parents, grands-parents ou amis, ce qui est plus compliqué quand on est primo accédant. Donc, on est les deux principaux freins sont ceux-là, le prix de l'immobilier, le montant de l'apport qui est toujours plus haut et toujours plus demandé par les banques, et puis la perception qu'ont les Français encore en ce moment, parce que ça ne fait que 3 ou 4 mois que c'est stable et que ça commence à baisser, les taux de crédit qu'on leur a rabâchés dans les oreilles, qu'ils ont vu, lu, entendu dans la presse, que ça montait, ça montait, ça montait, c'est plus le cas, c'est stabilisé, ça commence à baisser, je pense que ça va même continuer au second semestre 2024, probablement qu'on retrouvera des...
Les clignotants...
Sont verts, ouais. En réalité, les prix du mètre carré baissent, les taux de crédit commencent à baisser.
Et faut que ça infuse, quoi.
Et toutes les banques sont prêteuses. Aujourd'hui, on est dans cette période d'attentisme qui va probablement durer encore quelques semaines ou quelques mois. Mais les voyants sont plutôt au vert et je suis bien plus optimiste aujourd'hui en venant vous analyser notre étude que je ne l'aurais été si on avait eu cet échange il y a un an.
Juste, on a parlé de ces prix, on a parlé de ce financement. Il y a une autre thématique qui, bien évidemment, occupe très largement le monde immobilier. C'est tout ce qui touche de près ou de loin aux questions énergétiques, hein, les passoires thermiques, les économies d'énergie et ceci et cela. J'en passe et des meilleurs. Ça transparaît aussi. Enfin, je veux dire, les Français sont occupés, préoccupés, intéressés, dynamisés sur ces aspects-là.
Alors, il y a deux conclusions qui sont un peu opposées sur ce sujet. La première conclusion, c'est que on avait introduit de nouveaux items par rapport à l'étude précédente qu'on avait réalisée en 2022, et notamment par rapport au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Et les Français nous disent qu'à 76%, le DPE est aussi important que le prix du bien qu'ils achètent ou que son emplacement.
D'accord.
Donc c'est un nouvel item et il arrivait très près des tout premiers. Donc les Français sont concernés, ont entendu parler de ce DPE qui est un peu barbare et qui donne des lettres.
Qui a beaucoup fait parler de lui aussi.
Oui, c'est vrai. Et pour le coup, donc ils savent que ça existe et qu'il vaut mieux avoir une bonne lettre. Une fois qu'on a dit ça, on a posé la question jusqu'à quelle lettre seriez-vous prêt à aller si vous achetiez un logement pour l'habiter sans faire de travaux, pour l'habiter en faisant des travaux ou pour l'acheter mais le mettre en location et donc faire un investissement locatif. Et quand on pose cette question, on a à peu près dans les trois sous-catégories 40% de Français qui ne savent pas ce qu'est un DPE. Donc ils en ont entendu parler, ils savent que c'est un peu important, mais 4 sur 10 n'en connaissent pas vraiment la teneur. Et pour ceux qui répondent, après, très logiquement, ils estiment qu'un DPE peut être pas terrible si on y fait des travaux et qu'on met en location après. Ouais. Dans 49% des cas, ils estiment même
ils
que ça peut
pouvoir améliorer les choses, quoi.
Une bonne opération financière.
Donc,
c'est un biais financier. C'est pas forcément parce qu'ils veulent être plus vertueux que ce qu'on leur demande ou vraiment bien isoler leur
appartement. Ils sont prêts à faire le pari d'acheter cher, une mauvaise étiquette. Pour faire des travaux et s'en sortir à bon compte.
Ils imaginent effectivement que le prix de l'achat qui sera forcément décoté parce que mauvaise lettre est potentiellement pas louable dès 2025 ou 2026 plus les travaux, ça fera un prix total et global inférieur à un bien déjà bien étiqueté en DPE et c'est effectivement assez drôle de le constater.
Oui. Et pas forcément très crédible. Enfin, quand on entend tous les professionnels et la difficulté de trouver les bons prix, les bons artisans, les bonnes disponibilités, je suis pas sûr que le... Du coup, vous êtes plutôt quoi ? Optimiste pour la huitième étude, pour la huitième vague que vous ferez sans doute ?
Oui. Bon, on la fera et puis on n'attendra pas deux ans. Mais oui, c'est-à-dire, c'était intéressant de voir que la perception de notre réalité, elle est en décalage. Nous, c'est tangible. On sent dans le réseau les premiers signes d'éclaircie. Et c'est vraiment une bonne chose parce que la période a été longue et qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Les conditions sont quand même réunies aujourd'hui. Il y a un gain de pouvoir d'achat immobilier. Quand les taux baissent, quand les prix du mètre carré baissent et quand toutes les banques sont prêteuses, ça veut dire qu'elles se font un peu de concurrence et qu'on peut aller gratter les dernières négociations de taux. Tous les voyants sont au vert et il manque plus que... Maintenant que toutes les banques sont revenues autour de la table pour prêter, il manque plus que des demandes et des achats. Et je pense que si le premier semestre 2024 est un semestre de retour aux fondamentaux, avec des taux plus stables, avec des prix du mètre carré qui baissent un peu et l'ensemble des partenaires bancaires qui est revenu, le second semestre sera probablement une accélération du nombre de transactions qui est quand même en berne au premier semestre.
Je vous titille, on réentendra parler de renégociation ? Un jour,
c'est pas impossible. Je pense. Après, là, c'est une intuition plus qu'une conviction. Je pense que ça va baisser encore un peu parce que d'abord parce que l'inflation est quasiment jugulée. En revanche, je pense pas qu'on reviendra à des taux aussi bas qu'on a connus pendant 6 ou 7 ans aux alentours de 1%, parce que dans l'intervalle, les dettes ont quand même fortement explosé et qu'il faut les financer ou les refinancer et que ça se fera pas à taux négatif. Donc je pense qu'on restera probablement dans des environnements aux alentours de 3, 3,5. Ça m'étonnerait qu'on descende en deçà de ça.